Directeur Jules Radio Insolite, vous savez qu'on aime bien aller dans des endroits qui sortent un peu de l'ordinaire, et là c'est le cas de le dire, je suis avec Tara. Bonjour Tara.
Bonjour.
Et alors là, attention, on va dans le domaine du mentalisme et dans le domaine de tout ce qui est consultant en soft skills et influence. Oula, mais dis-moi, ce sont des mots bien réputés
C'est
tout ça.
compliqué.
Bien réputés, c'est un peu la mode
Oui,
en ce moment.
absolument. Oui, bien sûr. C'est un peu la mode, mais moi, ça me permet aussi de mélanger les différents parcours que j'ai faits. Donc, ma double casquette, artiste mentaliste et ingénieur, afin de proposer des formations en entreprise et en même temps divertir le public avec des expériences incroyables sur scène.
Alors justement, ingénieur, voilà, tu as été ingénieur à Centrale à Paris.
Exactement, c'est
Mais
ça.
qu'est-ce que tu fais dans ce métier? C'est pas la même chose. Tu aurais dû être. Quel était logiquement le métier qui te destinait Centrale Paris?
Eh ben, en vrai, figure-toi que en sortant de Centrale Paris, tu peux devenir tout et n'importe quoi. Le réseau centralien est très très vaste. Et je me rappelle, en tout cas, on part un peu partout. Mais certes, je ne suis pas ingénieur un peu plus classique, mais je ne suis pas le seul artiste centralien. Un autre qui m'a beaucoup inspiré est un prof d'ailleurs, qui est toujours à Centrale, mais c'est Ludovic Alexandre Vidal, qui peut-être certains reconnaîtront comme l'auteur de plusieurs comédies musicales pour enfants, Tom Sawyer, Le Tour du Monde en 80 jours, etc. Et qui lui avait fait Centrale et s'est lancé après dans la comédie musicale. Donc voilà, on est une petite communauté. Un peu prenant une voie un peu différente.
C'est pas si mal que ça peut être bien.
Bah oui.
Ça a toujours été dans ton ADN dès que tu étais petit?
Alors, pas le mentalisme, mais l'art, oui. Quand j'étais tout petit, je faisais du chant, j'en fais toujours aujourd'hui. C'était ma vraie première forme artistique. Et je me rappelle que quand j'avais 10-11 ans, je disais toujours je voulais devenir chanteur et ingénieur. Et là, je crois que j'ai trouvé un bon équilibre entre les deux. Donc c'est assez chouette.
Quel type de chant?
J'ai fait un peu de tout, globalement du pop rock, mais à Centrale j'ai fait plusieurs années de comédie musicale.
D'accord.
Sinon j'ai fait de la chorale semi-professionnelle pendant quelques années aussi. Et après globalement pas mal de concerts. Donc la musique est vraiment imprégnée en moi. C'est quelque chose d'ailleurs que je réutilise dans mes différents spectacles en travaillant avec un compositeur pour vraiment créer une atmosphère sonore pour plonger le spectateur dans l'univers et les émotions que je veux lui transmettre et pas juste un enchaînement de tours impressionnant quoi.
Oui, parce que c'est ce que j'aime bien dans la présentation de ce que tu fais, c'est que tu parles de voyage émotionnel. On parle pas de
Oui,
spectacle. C'est ça qui fait ça.
absolument. Pour moi, c'est quelque chose qui est assez important et c'est comme ça que je construis mes spectacles. C'est-à-dire, ce que je me pose comme question, c'est pas qu'est-ce que je vais raconter pendant le spectacle, mais qu'est-ce que j'ai envie que le public retienne du spectacle et partent avec quel est le cadeau que j'ai envie de leur laisser. Et c'est à partir de là où je commence à écrire les différents spectacles, notamment là, la mystérieuse histoire de Thomas Poelgaras au théâtre. L'objectif, c'était de faire un mélange entre deux genres qui ont rarement été mélangés ensemble, le théâtre et le mentalisme, pour proposer une expérience immersive. Donc, je joue un personnage, il y a une écriture dramatique, et les gens qui montent sur scène deviennent eux aussi des personnages de l'histoire. Le mentalisme n'est qu'un prétexte, on va dire, et justifié, qui permet d'avancer la narration.
D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une réputation qui n'est pas toujours positive au niveau du mentalisme? Parce qu'on lit souvent le mentalisme avec l'hypnotisme. Est-ce
Oui,
que
absolument.
tu sens quand même cette ambivalence, entre guillemets?
Alors, je sens effectivement le lien, et de toute façon, je pense que si je demande dans la rue qu'est-ce que le mentalisme pour vous à 10 personnes différentes, je vais avoir 10 réponses différentes. parce que c'est très flou, en fait, aujourd'hui. Effectivement, on mélange les deux. La manière dont moi je le vois, c'est que l'hypnose est un outil du mentalisme. Donc, moi, j'utilise de l'hypnose parfois. Je suis même certifié hypnothérapeute, donc d'un point de vue beaucoup plus formel. Et en fait, effectivement, le côté un peu négatif qu'on pourrait entendre, c'est ah, il va nous manipuler, il va nous contrôler, on va perdre contrôle. Mais globalement, le mentalisme à la base, ça reste juste une forme artistique, c'est-à-dire ça va se baser sur des outils psychologiques, sur des outils magiques, sur de l'hypnose, etc. Mais pour un objectif de divertissement et de transmettre des émotions, et non pas pour truquer ou tromper, etc. Ça rentre dans le monde de la manipulation.
On est bien d'accord et tu fais bien de le préciser, je veux dire, là-dessus. Ce qui est original, c'est que, bah, évidemment, on parle de spectacle, mais tu interviens aussi dans beaucoup d'écoles.
Oui, bien sûr. Je donne des cours à Centrale Paris et dans d'autres écoles d'ingénieurs et écoles de commerce de soft skills, donc tout ce qui est prise de parole en public, gestion du stress, négociation, influence, etc. Bref, toutes les compétences qui vont être utiles dans n'importe quel secteur du métier, qui vont être des compétences interrelationnelles. Et moi, mon domaine de prédilection, c'est la communication d'influence, de comment les mots que l'on va utiliser, notre posture, etc., va transmettre un message efficace. Et comment, par exemple, convaincre un investisseur, comment pitcher une idée d'une manière efficace, comment négocier pour avoir la part du gâteau qu'on a envie d'avoir, etc.
D'accord, tu le fais d'une manière positive parce qu'il y a eu un reportage il y a 48 heures sur l'influence. On a l'impression que les influenceurs, c'est plus des manipulateurs, ce sont des gens qui vont servir des intérêts perso ou des intérêts d'une entreprise juste pour influencer. Toi, tu le fais d'une
Bien
manière
sûr,
beaucoup
ça,
plus saine.
c'est le côté un peu négatif, ouais. Et la manière dont moi je l'apporte, c'est plus, en fait, nous influençons continuellement le monde autour de nous. C'est-à-dire que là, en ce moment même, je suis en train de t'influencer, d'influencer les gens qui nous écoutent pour qu'ils comprennent ce que je suis en train de dire.
Tout à
Ça paraît
fait.
bizarre de dire comme ça, mais en fait, c'est une influence d'une certaine manière. Par contre, la majorité du temps, comme personne nous a appris comment le langage et la psychologie fait que un message passe ou pas, eh ben, on influence, mais mal. C'est ce qui crée du coup les incompréhensions, c'est ce qui crée les débats, les conflits, etc. Et moi, mon objectif, c'est de défaire ça. Donc, donner les outils, les clés aux managers, aux étudiants, pour optimiser et améliorer leur communication, pour avoir des relations plus saines, pour développer une empathie, pour être plus bienveillant, etc.
Si je te dis le prix des Cyrano, tu me réponds quoi?
Ah, eh ben, je dis que mes deux spectacles, ils sont nommés.
C'est alors, c'est parce que tu es particulièrement brillant, parce que tu as les bons contacts, parce que le spectacle en vaut vraiment la peine. Je suis un peu
Bah,
comme Olivier Coffrage, hein, je le dis franchement. Vas-y.
j'espère que le spectacle en vaut la peine, en tout cas. J'espère que c'est plus ça plutôt qu'autre chose. Je trouve que c'est un vrai honneur, en tout cas. Et les retours publics de mes deux spectacles sont très, très positifs. Donc, ça me fait extrêmement plaisir. Moi, j'avoue que quand j'ai commencé les spectacles en 2018, en première année de Centrale, jamais, mais jamais j'aurais imaginé que ça aurait autant marché et que je serais là aujourd'hui.
Tu
Donc
penses que
c'est
ça
un.
correspond à quoi? C'est ta manière de faire, c'est ton style, ta jeunesse, le fait de le faire avec le sourire?
Peut-être un mélange de tout cela. En tout cas, moi, mon approche artistique, c'était un peu cette approche-là que je voulais faire, un peu à différence des autres spectacles de magie et de mentalisme qu'on a l'habitude de voir, c'est d'y ajouter un peu plus de poésie et d'émotion. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on associe le mentalisme à limite du stand-up, c'est-à-dire
Oui.
un spectacle rigolo, voilà, il va se passer des choses marrantes, on va participer, il y avait l'air des lectures de pensée, de l'influence, mais voilà, c'est drôle, c'est fun, c'est léger. Et ce que je voulais apporter, c'est de la poésie dans le spectacle, c'est-à-dire que moi, ça me gênait ce côté, bon, je vous montre un tour, c'est bon, c'est fini, on passe au prochain tour, ok, merci beaucoup, applaudissements, on passe au troisième, etc., etc. Même si c'est bluffant, ça ne va pas plus loin que ça, on reste dans le spectacle. Et donc, l'idée que j'avais eue dans mon premier spectacle, L'effet papillon, qui tourne encore, c'était de laisser le spectateur partir avec des messages et des sensations émotionnelles. Et en fait, j'ai construit du coup le spectacle Les Fils Rouges à partir de ça, me dire ok, comment je vais créer tout un univers poétique autour. Et c'est ça ma vraie fibre, on va dire, originale dans le mentalisme, c'est que ce n'est pas juste un spectacle de mentalisme, c'est un spectacle poétique. Dans La mystérieuse histoire de Thomas Paul Garras, du coup, mon deuxième, c'est une fibre théâtrale qui est jamais faite en mentalisme. C'est-à-dire que là, il y a un personnage, il y a une écriture, donc on suit une histoire, mais en même temps, le mentalisme est intégré comme des événements de la narration elle-même. Et je pense que c'est ça, et en tout cas cette poésie-là et cette originalité qui m'a en tout cas aussi valu les prix, le prix d'argent du meilleur mentaliste d'Europe en 2022 et le prix du public. En tout cas,
D'accord.
c'est ça qui était ressorti.
Bon, on va direction le 15e arrondissement à Paris, au théâtre, pour
Oui,
parler un peu de ton
exactement.
spectacle en cours. Alors, c'est marrant
Ouais.
parce que quand on regarde, on peut penser qu'il commence le 6 octobre 2022, mais en fait, il a commencé déjà depuis l'an dernier.
Oui, c'est ça, exactement. Il a commencé octobre dernier, c'était la toute première date. Et oui, du coup, c'est mon tout dernier bébé.
Alors, c'est quoi ce conte moderne dont tu parles?
Alors, donc la mystérieuse histoire de Thomas Paul Garras, l'histoire, c'est Thomas Paul Garras, un présentateur de télévision et mentaliste des années 90, qui perd sa femme lors d'un accident de voiture. Et donc, il essaye de recommuniquer, la recontacter en allant voir des médiums, des voyants, etc. Mais très rapidement, réalise que ce n'est que des charlatans. Donc, il perd totalement espoir. Il rentre dans une dépression pendant plusieurs années. Et une dizaine d'années après, décide lui-même de se faire passer pour un voyant pour redonner de l'espoir aux gens, un espoir que lui seul ne retrouvera jamais dans sa vie. Et jusqu'au jour où un coffre apparaît devant chez lui, et sur ce coffre, il y a marqué dessus « Retrouve-moi ». Et à partir de ce moment-là, ce coffre va venir totalement chambouler son système de croyances. Et je vous laisserai découvrir la suite en venant voir le spectacle.
Oui, c'est très bien. Une très bonne
Très
présentation, je trouve. C'est quoi qui t'a. C'est quelque chose de particulier qui t'a inspiré, ce spectacle?
Ouais, c'était plusieurs recherches artistiques qui se sont mélangées en une. Je vais les faire du coup une par une. La première, c'était le mélange entre le théâtre et le mentalisme. Ça devait faire, je crois, 3-4 ans où j'étais sur cette voie de comment mélanger le théâtre et le mentalisme. Pour faire simple, ça a déjà été fait en magie, c'est-à-dire qu'on a déjà eu des spectacles théâtraux avec des effets magiques qui se passent. Mais en mentalisme, c'est beaucoup plus difficile puisqu'il y a une interaction directe avec le public. Donc, un cassage du quatrième mur. Et donc, la complexité, c'était comment faire en sorte de ne pas casser le quatrième mur pour quand même garder une pièce théâtrale et en même temps le casser pour interagir avec le public. Et donc, c'était une vraie quête que j'avais depuis plusieurs années. Et cette quête s'est enfin résolue quand j'ai eu l'idée de comment la réaliser avec ce spectacle-là. C'est passé à travers plusieurs tests et erreurs, on va dire, avec d'autres spectacles que je n'avais pas présentés à des festivals. Et là, c'est enfin arrivé. Et l'autre recherche, c'est, je suis très inspiré par tout ce qui est voyance. Alors, je ne parle pas du vrai pouvoir, je parle du côté psychologique et du phénomène de la voyance que l'on trouve aujourd'hui.
D'accord.
Et l'objectif de ce spectacle-là, c'est aussi de partager une réflexion autour de ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Quelles sont les conséquences négatives, positives peut-être? Quelles sont les idées? Est-ce qu'on est obligé d'avoir des pouvoirs pour réaliser des choses impossibles ou pas? Et donc, toutes ces réflexions-là se sont mélangées, et bien sûr aussi avec un petit teasing, comme j'ai une formation aussi de chanteur, je voulais absolument ajouter ça là-dedans. Et donc, dans ce spectacle-là, il y a aussi de la musique live faite par moi. Et je voulais absolument mélanger ces différentes formes artistiques-là, en tout cas dans ce nouveau concept. Et l'objectif, et c'est pour ça que je suis très content, parce que je le ressens en tout cas dans les spectateurs qui viennent, l'objectif n'est pas d'avoir des « waouh, incroyable », etc., machin, mais plus que les gens repartent en se disant « mais qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce qui était vrai? Qu'est-ce qui était faux? » Et créer un flou entre la fiction et la réalité pour créer vraiment un moment marquant.
Tu étais présent en Avignon, si je dis pas de bêtises.
Oui, absolument. Mon premier Avignon.
Ça doit faire drôle de faire un marathon de 23 dates et puis ensuite de jouer une fois par semaine.
Ouais, c'était assez intense. J'avoue que j'ai le retour à la vie réelle à Paris, c'était assez compliqué au début. Mais c'est vrai que c'était super intense, mais c'était incroyable comme expérience. J'ai eu pas mal de public, j'ai bossé beaucoup aussi. Je passais 5 heures par jour à traiter dans la rue. Donc du coup, c'était une expérience assez dingue d'un point de vue rencontre, d'un point de vue émotionnel, mais aussi d'un point de vue fatigue. Donc effectivement, ça m'a fallu une semaine, je crois, pour vraiment m'en remettre à Paris. J'étais même dans une phase où j'étais en train de chercher un appartement. Et pendant que j'ai appelé un agent, alors que j'étais sur Paris, rentré du Festival d'Avignon, mon cerveau me disait, mais purée, mais t'es con, t'es toujours à Avignon, oh là là, t'as oublié que tu reviens à Paris dans un mois. Non, mais annule le rendez-vous de la visite d'appartement. Et ça m'a pris 2 minutes avant que je réalise, ah ben non, en fait, je suis dans le salon à Paris.
D'accord.
Mais c'était une très chouette expérience.
Ouais, c'était pour Avignon pour toi, c'était un défi, c'était une consécration.
C'était un peu des deux, et aussi pour vraiment pousser mon premier spectacle, du coup, un peu plus long. Donc, l'effet papillon qui tourne à Paris depuis 2018. Et à ce moment-là, en fait, je m'étais dit, ben, pourquoi pas. On me l'avait proposé l'année dernière, en fait, à Avignon. Et je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de le faire, mais comme je n'avais jamais assisté au Festival d'Avignon, même en tant que festivalier, je me
D'accord.
suis dit que ça serait trop risqué. Donc l'année dernière, je suis allé avec un ami pendant une semaine au festival en tant que festivalier, et cette année, du coup, ça m'a permis de me préparer pour y aller. Donc je suis allé avec mon coproducteur, mon attaché de presse, et on a fait une belle saison.
D'accord, tu as pris des repères l'an dernier pour bien poser les choses cette année, donc.
C'est ça, exactement. Au lieu de me lancer dans le vide comme ça à l'aveugle.
Oui, comme malheureusement certains font avec des résultats qui sont parfois un peu mitigés. Tu refais pas?
On est en train d'en discuter avec mon coproducteur et mon diffuseur pour voir est-ce que déjà les contacts qu'on a eus là suffisent pour déjà lancer une tournée, donc peut-être se focaliser sur la tournée d'abord, ou alors est-ce que je le refais Et on essaie de viser une salle plus grande, vu que ça a bien marché là cette année, et maximiser encore plus sur les programmateurs pour focaliser la tournée en 2024. Là, on est en pleine discussion, donc je ne pourrais pas vraiment dire.
D'accord, non, non, mais ça veut dire qu'il y a quand même une réflexion potentielle sur leur faire. Ok.
Absolument. Donc peut-être l'année prochaine, je reviendrai avec l'effet papillon. Absolument.
D'accord, ok. On peut rappeler juste ton spectacle en cours? Où est-ce qu'on peut le voir? Comment est-ce qu'on fait pour réserver?
Bien sûr, donc c'est la mystérieuse histoire de Thomas Paul Garas au Théo Théâtre les jeudis à 19h. Donc ça reprend à partir du début octobre, tous les jeudis à 19h. Et soit vous réservez immédiatement avec le théâtre, mais moi je vous conseille de passer par Billets Réduc. C'est moins cher et c'est mieux pour moi pour les statistiques.
D'accord, bon là c'est un avantage d'être clair, il n'y a pas de problème.
Voilà.
Ok, super. Bah, écoute, moi je voulais te remercier d'avoir pris ces quelques minutes pour nous expliquer tout ça, pour nous faire découvrir un autre type de spectacle, parce que bon, c'est pas quelque chose qu'on voit fréquemment. Et puis bah, te dire plein de choses pour ta suite.
Merci beaucoup à toi et merci pour cette invitation.
Bonne journée, au revoir.
Bonne journée, au revoir.